Retour sur les discussions de Bougival, toujours en cours. Vous retrouverez dans un instant la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Et puis que retenir du Collège économique et sociétal? Christopher Gigès, qui assistait à la réunion, était ce matin notre invité à son retour de Paris. Difficulté en cascade pour Air Canin, la panne de l'un de ses appareils provoque de nombreuses perturbations sur le programme de ses vols. En métropole, l'influenceuse Soraya Rifi, victime d'un cambriolage très violent à son domicile, elle a été frappée et ligotée. Aux États-Unis, le Texas sous les eaux, les inondations de ces derniers jours ont causé la mort d'au moins 70 personnes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera prolongé par le magazine des sports du lundi. Michael Juneski, bonjour.
Ah, bonjour Jean-François.
On parlera évidemment des mini-jeux du Pacifique qui se terminent maintenant dans deux jours.
Oui, la dernière ligne droite à Palau et les triathlètes calédoniens qui sont rentrés en piste ce lundi. Et comme attendu, ils viennent de remporter déjà une médaille de l'argent grâce à Mélanie Allier, deuxième de l'épreuve au format court. L'épreuve messieurs est en cours au moment où je vous parle. On suivra également encore aujourd'hui de l'athlétisme handisport, du volley indoor avec les matchs de classe pour les cagous qui visent la cinquième place. Pour le moment, nos représentants totalisent 23 médailles, dont 5 en or, pour se positionner à la septième place d'un classement dominé par Tahiti.
Pendant 3 semaines, on va vivre au rythme du Tour de France et Mathieu Van Der Poel a déjà pris le pouvoir.
Le petit-fils de Raymond Poulidor qui a bien terminé premier pour prendre le maillot jaune dès la deuxième journée. Mathieu Van Der Poel qui a coiffé au poteau lors de la deuxième étape les favoris de la grande boucle, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Mais ce n'est que la deuxième journée et la route sera encore longue jusqu'aux Champs-Élysées.
Et puis nous parlerons de trail avec notre invité tout à l'heure.
Oui, trail et VTT, deux événements en un quand Deva devient le royaume des amoureux de sport en pleine nature. C'est l'un des week-ends de clé proposés par Pro Evans. Le week-end prochain, le trek des Érythrines le samedi au coucher du soleil avec vue sur Lagon. Et dimanche, le BCI Deva 100 qui lancera le VTT Pro Tour. Rendez-vous à Bouraille pour cette nouvelle fête du sport et des sensations fortes. Nous en parlerons en détail donc tout à l'heure dans le Mac des Sports en compagnie de Julie Prunet en charge de l'organisation pour Pro Evans.
Les discussions se poursuivent donc à Bougival entre les délégations calédoniennes et les représentants de l'État. Elles avaient débuté mercredi soir dernier et selon nos informations, elles devraient se poursuivre jusqu'à lundi soir. Le sommet serait en effet clôturé par Emmanuel Macron avant son départ pour la Grande-Bretagne où il doit effectuer une visite d'État. Les négociations qui se font désormais sur la base de la recherche d'un accord définitif sans période transitoire et sur la base du résultat des 3 référendums dont le président de la République a acté la validation. Un sommet qui est bien sûr au cœur de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, que l'on retrouve tout de suite.
La Calédonie est anxieuse, alors que les discussions entamées jeudi se poursuivent à huis clos dans la charmante commune de Bougival, en région parisienne. Un huis clos un peu stressant, parce que si tout le monde comprend que les négociations sur l'avenir doivent être entourées de la plus grande confidentialité, chacun aimerait aussi, à l'heure des réseaux sociaux et de l'information en continu, avoir quelques éléments sur ce qui se dit dans les salons feutrés de l'hôtel 5 étoiles. Eh bien, nous ne saurons rien, ou si peu, et c'est sûrement mieux comme ça, tant le moindre élément, la moindre parole est susceptible d'interprétation et de conjectures contradictoires. Prenez l'exemple du discours du président de la République en ouverture de ce sommet consacré à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. À peine l'avait-il prononcé que plusieurs hypothèses circulaient et que certains s'esbaudissaient parce qu'Emmanuel Macron aurait prononcé les mots d'État associé. Aussitôt, le journal Le Monde, dont le soutien aux indépendantistes n'est plus à démontrer, en faisait sa une. Et comme toujours, plusieurs médias lui emboîtaient le pas. Mais c'était une fake news et une source proche de l'Élysée, que la déontologie nous interdit de citer, a tenu à préciser que ce n'est pas du tout ce que le président de la République avait dit. Deux sources concordantes aussi bien de l'Élysée que des délégations des partisans de la France, on comprend qu'Emmanuel Macron s'est contenté de poser un cadre et de fixer un cap. Le chef de l'État a tout de même rappelé la légitimité des 3 référendums qui doivent servir de base aux discussions, ce qui n'est pas rien. Et il a proposé une période de transition de 15 à 20 ans pour reconstruire, pour assainir la situation et pour travailler sur un projet commun. Mais pour le président de la République, il n'y a pas de modèle prédéterminé. Et il a évoqué plusieurs pistes, et notamment l'État fédéré ou la très large autonomie au sein de la République. On relèvera tout de même au passage qu'Emmanuel Macron n'a pas envisagé en revanche l'hypothèse de la pleine souveraineté, qui n'est plus prise en considération par personne. On notera aussi que le projet Valls n'est pas le plancher des discussions, comme l'avait souhaité la chef de file des loyalistes Sonia Backès. Et même si le FLNKS avait affirmé pour sa part qu'aucun compromis ne pourrait être envisagé en deçà du socle de Deva. On soulignera enfin que même si Emmanuel Tchibaou se posait beaucoup de questions sur la pertinence du format de ce sommet, le FLNKS est autour de la table et qu'il participe aux discussions. Il se dit même prêt à un accord, même s'il tient à préciser, pour la forme, qu'il ne le signera pas tant qu'il n'aura pas consulté ses structures. Cela n'a rien d'inhabituel, c'est le cheminement traditionnel de la coalition indépendantiste. Et on peut rappeler qu'en 1988, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tchibaou avaient dû faire valider par leurs partis respectifs, et avec des difficultés de part et d'autre, l'accord qu'ils avaient signé à Matignon. Mais curieusement, en Nouvelle-Calédonie, on a tendance à prendre pour argent comptant tout ce que disent les indépendantistes et à s'affoler dès qu'ils se livrent à leur automontade. On a pourtant l'habitude de leur rhétorique un peu bouffonne et il faudrait arrêter de lui prêter autant d'attention. D'autant plus que, sans surprise, ce sont surtout les partisans de la France qui ont l'oreille du chef de l'État. Et d'ailleurs, l'autre constat fait par l'Élysée, c'est que clairement, l'indépendance n'est pas viable dans une Calédonie plus dépendante que jamais de la métropole. C'est ce qui est apparu dans le Collège économique et sociétal. Alors on va attendre ce qui sortira de Bougival, mais il se dit que les délégations travaillent désormais sur un accord définitif, la période transitoire proposée par Emmanuel Macron n'ayant pas convaincu les différents groupes politiques. Et à propos de ce huis clos angoissant, on ne peut que penser à la citation de Jean-Paul Sartre qui en est issu, et que méditent peut-être les délégations politiques, l'enfer, c'est les autres.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Elle sera aussi à réécouter cet après-midi, juste après le flash de 16h. De retour de Paris, où il a participé au Collège économique et social, Christopher Jugès était notre invité ce matin à 7h30. Il a d'abord évoqué le discours d'ouverture du sommet sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, prononcé par le président de la République à l'Élysée. Un discours auquel il a assisté alors qu'il y a eu beaucoup d'interprétations sur ce qu'a dit Emmanuel Macron.
Le président de la République, il a été particulièrement clair sur un certain nombre de sujets. C'est qu'il y a eu 3 référendums. Ces 3 référendums doivent être respectés avec des aspirations de chacun à demander plus de souveraineté. Mais les 3 référendums ont été organisés, ont été bien organisés, ont été reconnus par les différentes instances internationales. Et le choix des Calédoniens était de rester au sein de la République. Donc,
sans le bémol que met régulièrement Manuel Valls, disant le troisième laisse un goût d'inachevé.
Vous m'avez interrogé sur ce qu'a dit le président de la République, pas sur ce qu'a dit Manuel Valls. Le président de la République est le chef de l'État. Emmanuel Valls doit appliquer ce que dit le chef de l'État. Manuel Valls était juste à côté du président de la République quand ce dernier a dit que les référendums et le choix des Calédoniens devaient être respectés, qu'on devait discuter non pas sur les bases de ce qui avait été fait à Deva, c'est bien ce qui a été dit pendant cette déclaration, mais je crois qu'ensuite chacun a pu peut-être trouver ou se rassurer des éléments sur l'interprétation du président.
Christopher Jugès relève que les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale étaient présents, ainsi que le Premier ministre, et il revient sur les propos du président de la République, alors que certains affirment qu'il a choisi l'État associé.
Oui, il y a eu un article dans Le Monde de Madame Guibert qui ment régulièrement sur la Nouvelle-Calédonie, et j'ose ce terme parce qu'elle prend un malin plaisir. C'est une militante indépendantiste aujourd'hui qui fait les articles du Monde. Le président de la République a dit qu'il souhaitait que tous les sujets puissent être mis sur la table, le sujet de l'État associé puisse être mis également sur la table, mais ça n'a jamais été un choix du président de la République. Il a dit qu'il y en a qui défendent autour de la table l'État associé, et Le Monde a titré « Le président de la République défend l'État associé ». Donc je crois que Mme Guibert défend cette thèse et a peut-être pris ses rêves pour des réalités.
Le membre du gouvernement estime qu'il est très bien que rien ne filtre des discussions de Bougival. C'est selon lui le meilleur moyen que les négociations réussissent et il affirme n'avoir que peu d'informations.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que la délégation qui est menée par Sonia Backès, la délégation non indépendantiste, défend bec et ongle l'intérêt des Calédoniens et le choix majoritaire des Calédoniens, et ils s'exprimeront quand ils devront s'exprimer. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a une abnégation, une force pour défendre une Nouvelle-Calédonie au sein de la République par notre délégation et par Sonia, qui est exemplaire.
Christopher Jugès a participé au Collège économique et social et sociétal et il parle d'un front commun des Calédoniens face à l'État. Il affirme que des choses ont été obtenues.
On a obtenu ce premier point, qui est un pacte économique et social qui soit rattaché à l'accord institutionnel, que ce ne soit pas qu'un accord sur les institutions, sur le lien à la France, mais également des choses sur le développement économique, sur les finances publiques, sur le nickel, sur comment on inscrit véritablement un développement économique pour la Nouvelle-Calédonie, mais également des mesures de court terme, sur notamment par Amélie de Montchalin, qui est membre en charge du budget, sur le fait d'avoir une extension de la garantie émeute à la Nouvelle-Calédonie par la métropole, une question sur l'immatriculation circulation des entreprises calédoniennes en métropole, un déblocage du fonds de solidarité de l'État sur un certain nombre de sujets qui est débloqué, et tout ça en lien avec la nouvelle mission reconstruction qui a été nommée.
Pour Christopher Gigès, la nomination de Claire Durieux à la tête de la mission reconstruction est une excellente nouvelle. Il précise qu'elle va passer la moitié de son temps en Nouvelle-Calédonie et qu'elle recrute une équipe dans laquelle il pourra y avoir des Calédoniens. Il a également précisé ce qui avait été dit concernant le nickel.
Que Eramet souhaite sortir du capital de la SLN, c'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est pas vraiment Eramet, c'est Christelle Bory, c'est parti des Duval. Et quand Christelle Bory dit il y a quelques semaines de ça que la SLN n'est plus dans le bilan de Eramet, ok, ça fait 16 mois que c'est le cas. Donc ça fait 16 mois que l'État continue à payer pour la SLN. Donc il n'y a rien de nouveau. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qui a été acté, c'est que le nickel fera partie de l'accord institutionnel comme il l'a toujours été fait. Et qu'on puisse trouver une solution pour la SLN, pour le Nord et pour le Sud, et qu'on ait une vraie stratégie minière calédonienne. Mais il n'y a pas eu de nouvelles annonces sur le fait que Eramet sorte ou non du sujet. Moi, j'avais rencontré avec Alcide Ponga, le nouveau directeur général de Eramet, qui était beaucoup plus mesuré sur la question et qui disait, surtout, moi, si j'ai un modèle industriel qui me permet d'être rentable, notamment sur la question énergétique, et c'est un des sujets majeurs qui a été évoqué pendant le sommet, parce que on a eu la partie nickel, on a fait tous les rapports, on a fait toutes les réunions, on sait ce qu'il faut faire sur la partie énergétique, maintenant, il faut avancer. Et donc, c'est ce qu'on a pu dire à l'État sur le sujet, parce que c'est l'État qui tient la clé.
Une interview de Christopher Gigès, interrogé par Elisabeth Noir, à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Approuvez-vous la discrétion totale qui entoure les négociations entre groupes politiques qui se déroulent actuellement à Bougival? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. À 11h42, la première pause dans ce journal avant de voir dans un instant ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chez Decathlon, le bleu est plus qu'une couleur. C'est la promesse du meilleur rapport qualité-prix. Du textile aux équipements, découvrez notre large sélection de produits bleus pour tous les sports. Decathlon, le meilleur du sport au meilleur prix.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
L'actualité en Calédonie et le parquet informe le haut commissaire de la condamnation de Philippe Gomez et Philippe Michel pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs au sein de la communauté wallisienne et futunienne. C'est la procédure habituelle après ce type de délibéré, alors que la peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire devient effective à partir de sa communication aux intéressés. Le haut commissaire Jacques Billan doit maintenant prononcer d'office la démission des deux élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de la province sud. Le casse-tête d'Ercalin pour reprogrammer ses vols devrait bientôt toucher à sa fin. La pièce de rechange de l'appareil tombée en panne vendredi dernier a bien été livrée aujourd'hui, Léana Colombo.
Oui, le vol SB500 Nouméa Bangkok-Paris, prévu dans la nuit de vendredi à samedi dernier, avait été annulé, impactant de ce fait des centaines de voyageurs. La pièce nécessaire à la réparation de l'appareil était attendue dans la journée. Elle est bien arrivée d'Europe et les réparations sont actuellement en cours. L'avion devrait être remis en service en fin de journée. Un vol de remplacement SB700 Nouméa Singapour est prévu ce soir pour un départ à 18h45 de la Tontouta. L'arrivée devrait se faire à Singapour dans la nuit, peu après 1h du matin. Ces changements de vol ont également des conséquences sur la rotation entre Nouméa et Sydney qui devait être opérée en A330 demain. Les vols SB140 et SB141 sont reprogrammés en A320 et en deux rotations au lieu d'une. Les clients concernés ont été informés de ces changements. Et je rappelle enfin qu'en raison de la mauvaise météo de ces derniers jours, la rotation Nouméa-Port-Vila-Nouméa du 4 juillet a été annulée. Une rotation spéciale est prévue demain. Départ de Tontouta à destination de Port-Vila à 15h, puis départ de Port-Vila à destination de Tontouta, ce sera à 17h30.
L'effet d'hiver et ce coup dur pour l'auto-école Green Valley, dont l'une des voitures de conduite a été incendiée ce week-end. Elle a été retrouvée avec d'autres véhicules calcinés dimanche matin sur le parking rue de Bélep, à proximité du stade Numadélé. L'origine de l'incendie est inconnue, mais elle entraîne d'importantes conséquences financières. Le coût d'une voiture de ce type d'apprentissage est d'environ 3 millions de francs pour la société qui doit les commander hors territoire et donc attendre entre 3 et 4 mois pour les livraisons. Aujourd'hui, le gérant de Green Valley, Bruno Clouseau, a déposé plainte dans l'espoir d'obtenir indemnisation des assureurs. En attendant, c'est toute l'organisation de l'auto-école qui est chamboulée.
La majeure partie des permis, c'est bien sûr que la boîte manuelle. Et rien que pour ces trois prochains jours, c'est plus d'une vingtaine d'élèves qui sont impactés par le manque de conduite, quoi, en fait. On a dû annuler pas les permis parce que ce serait hors de question. On a dû travailler sur le réaménagement des plannings. Par exemple, quand une personne a deux heures, lui enlever une heure au profit de quelqu'un d'autre, étaler un petit peu plus ses formations sans trop impacter leur formation. Ça a un impact forcément sur l'un des moniteurs, donc on va essayer de lui faire faire plus de boîtes automatiques parce que je suis seul à faire de la moto et de la voiturette, ils n'ont pas encore le titre pro de roue. Du coup, il va falloir qu'on réaménage nos plannings, peut-être faire un petit peu de mi-temps, peut-être trois quarts temps, on va voir comment on va se débrouiller, mais le but c'est de garder tout le monde quand même. Mais ça va être compliqué parce que comme on le dit encore aujourd'hui, on a eu un mois de mai pénible, un mois de juin pas terrible, terrible, un mois de juillet qui débute avec une voiture incendiée, on espère pas fermer à la fin de l'année, quoi, du coup.
L'auto-école reste donc ouverte malgré tout, elle dispose encore d'une voiture en boîte manuelle, d'une autre automatique, de trois motos et d'une voiturette pour assurer ses cours de conduite. Et puis toujours à propos de sécurité publique, Grégory Joron, le secrétaire général du syndicat Unité Police, a passé une semaine sur le territoire, Nicolas Legrand.
Oui, et à cette occasion, il a rencontré les adhérents de son syndicat qui en compte 37 000 au niveau national, mais aussi les cadres des polices nationales et municipales. Et il en retient tout d'abord que les policiers sont encore marqués par les violences de 2024.
Ils sont fatigués, honnêtement. Alors, c'est pas la rhétorique habituelle syndicale, c'est une vraie réalité. Ils ont beaucoup donné. Il y a eu même un peu de débriefing collectif. Je pense que maintenant, il faut être un peu chirurgical, entre guillemets, et essayer de voir vraiment les policiers qui développent une forme de mal-être par rapport à ce qui s'est passé et essayer d'être à l'écoute. Ils demandent évidemment des moyens, c'est une évidence. C'est-à-dire tout. On a envie de travailler en sécurité, on a envie de bien travailler. L'intérêt aussi de notre déplacement, et on aura quasiment bouclé, encore une fois, ce tour des territoires ultramarins, en tout cas pour notre organisation, c'est de trouver les points transversaux qui peuvent nous permettre de reconstruire un vrai cahier revendicatif ultramarin qui soit partagé, puisque la question des matériels, honnêtement, je pense que c'est la chose qui réunit chaque territoire. L'idée, c'est de se nourrir justement de nos échanges, de nos discussions, et après, pour nous, c'est de transformer ça en matière syndicale et évidemment de le proposer à Paris et de demander aussi un rendez-vous au ministre Manuel Valls pour lui faire état de notre cahier revendicatif.
Grégory Joron qui a visité l'ensemble des Outre-mer durant son mandat de secrétaire général d'Unité Police, et il va maintenant militer pour un renforcement permanent du nombre de policiers dans ces territoires éloignés de la métropole.
On sait que les crises s'enchaînent, les raisons sont variables, multiples, soit météorologiques, on l'a vu avec le cyclone Chido, soit du narcotrafic, on le voit en zone Caraïbe, parce qu'on a une implantation réelle des cartels sud-américains dans les rues de Fort-de-France ou de Pointe-à-Pitre. On le voit ici, parce qu'il y a c'est un terreau culturel, historique, où on a quand même des vrais enjeux et des vraies confrontations. Donc tout ça doit être pris en compte pour se dire, est-ce qu'on assume une surcote en effectif, parce que on voit bien la difficulté logistique d'envoyer des renforts dès lors qu'il y a une crise. Et ça veut dire que le temps de latence entre la décision, l'envoi de renforts, la pérennisation des renforts, tout ça, en fait, c'est les policiers locaux qui le supportent sur leurs épaules. Et je pense que chaque minute a ressemblé à une heure et chaque jour a ressemblé à une semaine. Donc à un moment donné, moi, j'attends des politiques qui aient une vraie vision là-dessus. Nous, on a notre avis. Je pense qu'il faut assumer une surcote en Outre-mer pour gérer les crises lorsqu'elles arrivent. Ce n'est pas un coût, à mon sens, mais c'est un investissement.
Et lors de son séjour sur le territoire, la police a notamment renforcé la sécurité aux abords des établissements scolaires après une altercation au couteau au lycée Jules Garnier. Si l'agresseur n'a pas blessé sa victime, cette banalisation des armes blanches chez les jeunes ressemble au phénomène qu'il observe en métropole. Pour autant, Grégory Joron estime que les faits ne sont pas de même nature ici.
L'ultraviolence des jeunes, c'est aussi, je pense, une réalité qu'on peut partager. Donc, en Hexagone, c'est extrêmement difficile. On a un problème, de prolifération du couteau, où aujourd'hui, chaque gamin, on peut dire, a un écran, un téléphone portable, mais aussi, malheureusement, des fois, et très souvent, un couteau dont il use sans aucune empathie. Donc, on a un vrai sujet, en effet, d'ultraviolence chez nos jeunes générations. Pour avoir lu quelques bouquins, notamment du psychiatre Maurice Berger, là, qui bosse en centre d'éducation fermé depuis des années. On a quand même un vrai sujet, en effet, sur l'empathie, sur le rapport aux autres, sur l'expression de la violence avec une confrontation, c'est-à-dire là où, normalement, on devrait avoir assez de vocabulaire pour pouvoir s'expliquer et discuter. Aujourd'hui, on passe tout de suite aux gestes violents et notamment, malheureusement, aux coups de couteau.
Grégory Joron, le secrétaire général du syndicat Unité Police, est envolé pour Tahiti ce week-end, où il doit passer également une semaine.
L'actualité dans la région avec cet accident heureusement assez rare qui s'est produit dans un zoo privé de la région de Brisbane. L'une des employées a été attaquée par une lionne qui lui a arraché un bras. Le récit de Jean-Pierre Zajac.
L'accident s'est produit au zoo de Darling Downs, lequel est situé au sud de Toowoomba, soit à environ 80 km à l'ouest de la capitale du Queensland, Brisbane. Alors qu'elle assistait au nettoyage de l'enclos des grands félins avant l'ouverture du zoo, une employée quinquagénaire a eu le bras arraché par une lionne. Après avoir reçu les premiers soins sur place, elle a été transportée par hélicoptère sur un hôpital de Brisbane en vue d'y être opérée. Dans un communiqué, la direction du zoo a indiqué que ladite employée était parfaitement au courant des protocoles de sécurité concernant les animaux potentiellement dangereux et qu'elle avait plus de 20 ans d'expérience dans le métier. La lionne en question n'avait pas récemment mis bas et ne sera pas euthanasiée, a conclu le communiqué. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h51, une nouvelle pause dans ce journal et dans un instant, ce sera l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Le Salon Toyota 2025, du 11 au 13 juillet à la Maison des Artisans. Profitez d'avantages exceptionnels sur les véhicules neufs et profitez également d'un déstockage sur les véhicules d'occasion. Venez découvrir la gamme Toyota et les dernières nouveautés. Alors rendez-vous du 11 au 13 juillet à la Maison des Artisans. Et le Salon Toyota, c'est aussi chez Nord Motors Kone. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Jean-François Baudin.
Et le cas de Boualem Sansal provoque une polémique dans les instances européennes. L'écrivain franco-algérien a été condamné à 5 ans de prison à Alger, peine confirmée en appel, et il n'a pas bénéficié du dernier recours possible, c'est-à-dire la grâce du président algérien Tebboune. Invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos, le vice-président des LR, François-Xavier Bellamy, qui est aussi député européen, a affirmé qu'une haute représentante de l'Union européenne n'était même pas au courant de la situation de Boualem Sansal. Et l'affaire fait grand bruit. Antoine Bienveau pour Europe 1.
François-Xavier Bellamy assure que Kara Kallas, la haute représentante pour les affaires étrangères de l'Union européenne, n'était pas informée de la détention de Boualem Sansal. Une situation ubuesque qu'il a dénoncée ce matin au micro de Pierre de Villeneuve dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews.
J'ai demandé et obtenu un rendez-vous en tête-à-tête avec la haute représentante de l'Union européenne. Elle m'a dit qu'elle était en contact très régulier avec la diplomatie française. Et quand je lui ai parlé du cas de Boualem Sansal, elle ne connaissait pas la situation de Boualem Sansal.
Comment ça ?
Elle ne savait même pas que cette situation était un sujet de préoccupation pour nous, Français. Elle m'a demandé d'épeler le nom de Boualem Sansal. Et elle n'était pas de mauvaise volonté. C'est révoltant.
Une révélation qui a surpris tout le monde, a commencé par le comité de soutien de Boualem Sansal. L'organisation assure pourtant avoir envoyé plusieurs courriers à la haute représentante de l'UE pour la sensibiliser sur le cas de l'écrivain. Le comité de soutien aurait même reçu une réponse en mars, l'assurant de l'engagement de Madame Kallas sur ce dossier. Les signataires du communiqué rappellent enfin qu'une plainte contre Kara Kallas avait été déposée le 8 mai auprès de la médiatrice européenne pour manquement à l'obligation d'agir sur le sort de Boualem Sansal.
Et vous retrouverez l'intégralité de ce grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, dont l'invité est François-Xavier Bellamy, ce soir sur RRB. Elle est diffusée juste après le journal de 17h45. L'actualité en métropole avec une violente agression à l'encontre de Soraya Sriffi. L'influenceuse a été victime d'un homejacking particulièrement violent à son domicile marseillais. Le récit des faits avec Margot Bongrand pour Europe 1.
C'est en début de soirée que deux individus, dont l'un cagoulé, s'introduisent au domicile de l'influenceuse mannequin qui compte 1 million d'abonnés sur Instagram. Lorsqu'elle ouvre sa porte, la victime de 30 ans est une première fois frappée au visage et chute au sol avant d'être bâillonnée avec du scotch, comme elle l'a raconté sur Snapchat.
J'ai été ligotée. Quand j'ai été ligotée, la personne m'a serré trop fort. Quand je me faisais tabasser, en plus, à chaque fois qu'il ne passait pas, j'ai convulsé. j'en allais crever. Je disais au mec, s'il te plaît, enlève-moi les. Jusqu'à ce que je deviens bleu des mains. C'était horrible. Ligoté pendant 45 minutes. Ils avaient des couteaux, des armes. Je me suis dit, je vais mourir.
L'influenceuse soupçonne avoir été violée quand elle a perdu connaissance, ce que des analyses médico-légales doivent déterminer demain. La victime dit aussi avoir été aspergée de javel. Des bijoux, des montres et des sacs de luxe lui ont été dérobés. Soraya Rifi est particulièrement choquée et traumatisée. Son avocat dénonce des actes de barbarie. Elle souffre de plusieurs fractures, de coupures et d'une commotion cérébrale. Ses agresseurs auraient invoqué sa notoriété pour justifier leurs actes.
L'actualité à l'étranger, les négociations indirectes ont repris entre les représentants d'Israël et les délégations du Hamas. Elles se déroulent à Doha, au Qatar, toujours dans le but d'aboutir à un cessez-le-feu et à la libération des derniers otages israéliens, toujours aux mains de l'organisation terroriste. Dans le même temps, le Premier ministre israélien est en route pour Washington. Benjamin Netanyahou doit rencontrer Donald Trump. Les États-Unis, justement, où le Texas est victime d'importantes inondations consécutives aux pluies très fortes qui arrosent l'État depuis vendredi dernier. 70 victimes au moins ont été recensées. Thomas Guignot.
Les images sont glaçantes. On y voit des voitures emportées, des arbres arrachés et un torrent que rien ne semble pouvoir arrêter. Depuis vendredi, jour de fête nationale aux États-Unis, la pluie submerge le Texas et ses habitants. 70 personnes sont mortes selon le dernier bilan officiel. Un chiffre qui pourrait encore augmenter car 11 jeunes enfants qui participaient à un camp d'été chrétien ainsi que leurs moniteurs sont toujours portés disparus. Ils se trouvaient dans des bungalows au bord du fleuve Guadalupe lorsque les eaux sont montées de manière spectaculaire. En 45 minutes seulement, le niveau du fleuve est monté de plus de 8 mètres en portant tout sur son passage. Ce dimanche, 500 secouristes et 14 hélicoptères sont toujours déployés pour tenter de retrouver les disparus. L'alerte maximale aux inondations est maintenue jusqu'à ce soir dans l'État américain. Une catastrophe qui intervient un mois seulement après de premières inondations massives qui avaient fait 13 morts dans le même secteur du Texas.
Il est 11h57, c'est la fin de ce journal.